Sans conteste, l'actualité de la semaine est ce Salon international de l'alimentation de Montréal. Bien sûr, des centaines et des centaines de produits, des nouveautés, des innovations y sont présentés. Il y a aussi les conférences sur le contexte des affaires dans diverses régions du monde et des présentations sur les nouveaux outils de marketing, l'évolution des clientèles, le comportement de diverses catégories ou encore l'effet des accords commerciaux internationaux. Le CIAL va également honorer des fabricants, des créateurs. Il y aura le prix Innovation 2018 et le prix à l'exportation également. Je reviendrai d'ailleurs bientôt sur certains de ces éléments du programme du CIAL. Maintenant, je voudrais vous parler de Pangea, cette société d'investissement dans le domaine agricole qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années. Pangea achète des terres et s'associe à des agriculteurs pour les exploiter, en partageant le fruit des ventes réalisées. Au Québec, Pangea a actuellement 8 ententes du genre. L'Union des producteurs agricoles, la Fédération de la relève agricole et l'Union paysanne, entre autres, s'inquiètent de voir s'étendre ce que l'on appelle maintenant le modèle Pangea. Le ministre Laurent Lessard avait demandé une analyse du modèle Pangea. Avant même que le document soit rendu public, Laurent Lessard affirmait
« Nous, les fermes au Québec, ils ont un nom de famille. Puis ils ont souvent plusieurs générations. Je crois dans une société de propriétaires. Je veux vivre d'une société de propriétaires. » Dans toutes les régions du Québec, et c'est le modèle qu'on va valoriser.
Le ministre conclut de l'analyse qui lui a été remise que le caractère expansif et la place qu'occupe la Caisse de dépôt et placement du Québec, de même que le Fonds de solidarité FTQ dans les affaires de Pangea, sont préoccupants. Laurent Lessard constate que ce n'est pas là un exemple d'agriculture traditionnelle et familiale. Il demande donc une étude plus approfondie, entre autres pour vérifier si les activités de Pangea ont un effet à la hausse sur le prix des terres agricoles. Dans un autre ordre d'idées, on continue à entendre des réactions à la politique bioalimentaire du Québec, énoncée il y a un mois. Un horticulteur, pédagogue et auteur bien connu, Bertrand Dumont, déplore que cette politique ne prévoit pas une place réelle à l'agriculture urbaine.
Bien, je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle l'agriculture urbaine et périurbaine, qui sera, à mon avis, la manière de nourrir nos enfants et nos petits-enfants dans 20, 25, 30, 40, 50 ans. Il faut comprendre qu'avec les changements climatiques, avec les problèmes qu'on a, les approvisionnements vont devenir de plus en plus précaires. Je comprends qu'on veut exporter, mais il va peut-être commencer par falloir voir ce que nous, on est capable de produire pour nous et de devenir autosuffisants. Et j'utilise le mot à bon escient. Je sais que c'est un mot auquel il faut faire très attention, mais au moins qu'on soit en grande partie autosuffisants, parce que le jour où la Californie ne pourra plus nous produire parce qu'ils n'ont plus d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on n'a pas développé aujourd'hui cette connaissance, cette compétence, je vous donne un exemple. Demain matin, là, on a un énorme problème en termes climatiques. Et là, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas cultiver leur potager. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il va y avoir des problèmes. Alors que si, dès aujourd'hui, les gens apprennent à cultiver, à s'entraider, à savoir comment faire une salade, puis une tomate, puis n'importe quoi, ben, le jour où ils vont être mal pris, ils vont pouvoir se nourrir. On a besoin de deux choses dans la vie, à part l'air, ça, on n'a pas le choix, mais il y a l'eau et la nourriture. Et cette nourriture-là, il faut qu'on apprenne parce qu'on a perdu ce lien complètement avec la nourriture, avec la production de la nourriture. Mais c'est cette notion-là de santé, mais aussi de santé, je dirais, c'est de salubrité publique, de santé publique dont on parle. Et je suis fort étonné que le gouvernement n'ait pas allumé sur cette question-là. On parle déjà de 2025, alors que dans le reste du monde, New York a une politique nourricière. Il y a plein de politiques nourricières partout, mais on dirait que le gouvernement du Québec ne sait pas que ça existe.
Et connaissez-vous la coop carbone? Non? Eh bien, voici.
Jean Nollet, directeur général de la Coop Carbone. La Coop Carbone, c'est une initiative de quelques joueurs institutionnels au Québec qui avaient à cœur de faire partie de la solution quand on parle de transition énergétique et de réduction de gaz à effet de serre. Je pense à Front d'Action, Desjardins, la Coop Fédérée, le Centre d'excellence en efficacité énergétique et puis l'AQME, l'Association québécoise de maîtrise de l'énergie. Et sa mission à la Coop Carbone, c'est de générer des projets de réduction de gaz à effet de serre au Québec sur un mode collaboratif.
Et les grandes réalisations sont en voie de se concrétiser pour Coop Carbone. À travers diverses mesures, l'une impressionne davantage. Un premier digesteur. En fait, une première usine de méthanisation pourrait être construite d'ici un an. une usine qui traiterait déjections animales et rejets d'usines agroalimentaires.
Il y a d'autres secteurs qui ont plus d'impact, comme le transport et l'industrie, mais l'agriculture au Québec, ça représente 9,3 % des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et à l'échelle mondiale, l'élevage, lui seul, par exemple, représente à peu près 13 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'agriculture fait partie des enjeux et donc doit faire partie de la solution.
Agriculture contributrice aux gaz à effet de serre, mais agriculture qui peut aussi devenir partie de la solution.
Tout à fait, parce que dans les faits, du côté agricole, il y a différents types de mesures qui pourraient être mises en œuvre par les producteurs agricoles qui leur généreraient des bénéfices également. Alors, je pense notamment à la biométhanisation, je pense notamment au travail des sols qui pourrait être fait différemment. Je pense aussi tout ce qui est gaz réfrigérant, pas du côté agricole, mais plutôt agroalimentaire, donc une meilleure gestion des gaz réfrigérants, une meilleure gestion des matières résiduelles. Ce sont tous des éléments qui peuvent avoir un gros impact en bout de ligne sur les émissions de gaz à effet de serre de la province, mais à l'échelle mondiale également.
En ce qui concerne spécifiquement les élevages, vous menez un projet qui est quand même assez avancé. Vous le menez avec plusieurs partenaires. On a déjà fait des tentatives dans ce sens-là. Je me souviens même de Jean Garon, à l'époque, qui avait parlé de méthanisation. Pourquoi ça ne s'est pas fait?
Alors, la raison principale est d'abord économique, dans le sens où le prix du gaz naturel ne justifiait pas des investissements importants du côté de la biométhanisation. Mais là, les choses sont en train de changer. D'abord parce qu'avec la nouvelle politique énergétique, on force les distributeurs de carburant à s'approvisionner en partie en gaz naturel renouvelable. Donc, ce qui est très, très favorable à des projets comme celui dont on parle en agriculture. Par ailleurs, on a la possibilité, avec cette réglementation, là, de faire une différence, c'est-à-dire qu'en mettant en place des coopératives qui réunissent les producteurs agricoles, on peut faire en sorte d'avoir les économies d'échelle qu'autrement on n'a pas quand on parle à un producteur individuellement qui n'a pas la capacité de mettre en œuvre les investissements nécessaires qui justifient un biodigesteur, un purificateur, un éjecteur dans le pipeline d'énergie.
On contribue à la production de gaz naturel, si on veut, et de façon même assez importante compte tenu de la capacité des installations qui seraient mises en place. Mais aussi, on améliore, lorsqu'on vous parliez de traitement des sols, on améliore la digestibilité des engrais sortis des digesteurs et qu'on incorpore dans les sols.
Exactement. En fait, le processus de biométhanisation fait en sorte que, d'une certaine façon, c'est comme si les lisiers, fumiers puis autres matières compostibles sont digérées par le biodigesteur, justement, de sorte qu'elles sont presque directement assimilables aux champs, comme le sont les engrais chimiques. Donc, il y a un double bénéfice environnemental, on réduit effectivement les gaz à effet de serre, mais ensuite on réduit l'utilisation d'engrais chimiques de façon non négligeable, ce qui peut par ailleurs générer des économies pour les producteurs agricoles.
Il y a des projets qui peuvent aboutir à court terme?
Ah oui, on vise 2019 pour un premier biodigesteur et après ça, bon ben, on veut le répliquer à plusieurs reprises. On voit plusieurs possibilités. Lorsqu'on regarde le tracé du pipeline d'Énergir et qu'on voit les poches ou les concentrations de production animale, on voit une conjonction à plusieurs endroits au Québec. On a parlé, par exemple, de la région du Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Drummondville et puis Sainte-Marie-de-Beauce. Ce sont des endroits où il y a des concentrations animales à proximité du réseau d'Énergir qui font en sorte qu'on peut imaginer des projets dans ces régions-là. Et on peut imaginer là 25, 30 et peut-être même plus de projets au Québec qui profiteraient de cette technologie-là et de cette opportunité-là.
En 2019, le premier serait où?
Alors, actuellement, on travaille dans la région de Warwick et on a de bonnes raisons de croire que ça va être dans cette région-là.
Ici Lionel Levac. Alors, suivons ce que va réaliser la coop Carbone. Pour l'instant, parlons du stress qui monte chez les agriculteurs avec le mauvais temps qui perdure. Bien peu de parcelles ont pu être travaillées et les semis sont en retard. Pas de panique encore, mais on s'inquiète un peu. Ah oui, un dernier mot. La saison des sucres, pas tout à fait terminée dans l'est du Québec, sera décevante en bout de ligne. La production de sirop est cette année très inégale d'une région à une autre et même d'une érablière à une autre. Mais pas de problème, on va puiser dans la réserve. Au revoir.